You are powerful. We run this
mother. La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire à du clito.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante. Écrivaine, dirigeante, rabbine, femme politique, photographe ou actrice. Et ce samedi, une patronne des médias, intello des femmes.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Alors, Adler Weinstein. Merci Laure, à tout de suite.
Ah, bonjour, mais je connais ces gens.
Bonjour Laure Adler. Merci de nous recevoir chez vous.
Vous arrivez à l'heure de la récré.
Vous habitez au-dessus d'une école?
En face, ouais.
C'est pas pénible?
Ben non, au contraire, moi j'adore.
Les bruits d'enfants, les cris.
Ah ouais. Je suis rythmée par la récréation.
Vous savez qui habitait dans l'immeuble juste à côté de vous?
Ben oui, bien sûr.
Claude Lanzmann.
Oui. Et Agnès Varda, juste là, derrière. Ouais. Mais il a suffi que je vienne habiter là pour que Claude meure et qu'Agnès vienne de disparaître.
Ouais. On aura porté malheur, on va dire ça. Ça fait longtemps que vous habitez ici?
Non, ça fait 4 mois.
Seulement 4 mois?
Ouais.
C'est déjà bien installé, il n'y a pas de
carton. Heureusement, heureusement.
Et pourquoi vous avez décidé de changer?
Parce que les enfants sont partis et je ne voulais pas vivre avec les fantômes des chambres et de leur absence. Okay. Donc on a regagné Paris.
Très bien.
Elle dit de drôles de phrases comme « Pour moi, la féminité aujourd'hui, c'est Angela Merkel ». Elle a été une femme de pouvoir même si elle s'en défend. Patronne de France Culture, animatrice d'une des plus belles émissions culturelles à la télé, le Cercle de Minuit. Elle a flirté avec le pouvoir politique et ses courtisans dans sa période Élysée avec Mitterrand. Elle a surtout fait comprendre à toute une génération que penser et lire, c'était sérieux, mais c'était aussi sexy. Aujourd'hui encore, dans l'heure bleue sur Inter, elle n'a pas peur d'admirer les artistes. Chez elle, l'admiration, c'est une forme d'art. Et à tous ses invités, écrivains, réalisateurs, plasticiens, poètes, elle pose la même question, la même injonction. S'il vous plaît, apprenez-nous à vivre. Elle habite un appartement très lumineux au-dessus d'une école remplie de plantes de toutes sortes. Elle est frêle, belle et met des lunettes de soleil en forme de cœur, même chez elle. Laure Adler est notre invitée. Laure Adler, les lunettes, vous les mettez tout le temps? Les lunettes en cœur, je pensais que c'était réservé à la radio, en fait.
Mais pas du tout. Vous savez, j'ai besoin de lunettes pour voir, étant donné mon grand âge. Donc, j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable et j'achète mes lunettes à Venise. Et effectivement, elles sont en forme de cœur. Mais c'est des lunettes de vue.
Vous en avez combien, des lunettes en cœur, comme ça?
Deux. Une paire cassée, que je mets dehors. Et puis, une paire pour lire ou pour vous regarder.
Si je vous dis que vous êtes une femme puissante, Laure Adler, vous me répondez quoi?
Que c'est pas vrai. Ça m'évoque tout de suite un livre extraordinaire d'une personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Marine Diaye, et qui avait écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait « Trois femmes puissantes ». Et si ce mot de puissance se définit comme Marine Diaye l'avait fait dans son texte, c'est-à-dire comme la possibilité de faire, de se tenir debout, de respecter sa dignité et surtout celle des autres, alors oui, je veux bien accepter.
Ah oui, donc à la fin, vous acceptez l'idée de femme puissante telle que définie par Marine Diaye.
Voilà.
Pourquoi c'est tellement compliqué d'accepter pour les femmes d'être une femme puissante? J'ai hésité à appeler cette série d'entretiens « Femme puissante ». Et Laurence Bloch, la patronne de France Inter, elle-même me disait « T'es sûre, on appelle ça femme puissante? C'est pas trop clivant ?»
Eh ben moi j'ai créé une collection dans une maison d'édition qui s'appelle Puissance des femmes
chez Stock.
À cause de justement de Marine Diaye et à cause de la question que vous venez de me poser. Je pense que j'aurais pas osé le faire il y a 3-4 ans parce que j'aurais trouvé ça extrêmement prétentieux. Mais je trouve que maintenant c'est le moment. C'est le moment que les femmes puissent reconnaître en elles-mêmes. Et grâce à la sororité, grâce peut-être à la solidarité, à la reconnaissance des autres filles et des autres hommes, qu'elles possèdent de la puissance, elles aussi. Mmh. Je crois que c'est vraiment le moment maintenant.
Vous, personnellement, quand est-ce que vous vous êtes sentie la plus puissante? Quand vous étiez conseillère à l'Élysée auprès de François Mitterrand, quand vous avez présenté le Cercle de Minuit ou quand vous avez dirigé France Culture?
Non, jamais dans ces circonstances-là, qui sont des circonstances temporelles et dues au hasard des rencontres. Je crois que le moment où je me suis sentie bizarrement la plus puissante, au sens d'un sentiment qui m'a inondée intérieurement et où je me disais « mais c'est pas possible que j'ai pu faire ça », c'est quand je me suis retrouvée à 2h du matin à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, appelé par mon fils qui m'a dit que sa fille venait de naître. Et j'ai vu mon fils dans un couloir de l'hôpital avec ma petite fille dans ses bras et je me suis dit « mais moi, vivante, j'ai fait un fils qui lui-même fait une fille, mais c'est pas possible, mais comment c'est possible, comment c'est pensable ?» Et donc, même en vous en parlant, là, j'ai des frissons parce que je me suis dit « là, ça veut dire que quelque chose de la vie a échappé à ma propre puissance, si j'ose dire, et ça se répercute, et là j'ai été mais vraiment dans une plénitude de bonheur et dans une intensité d'existence qui m'échappait de tous côtés.
Enfin donc c'est la puissance maternelle, en fait la puissance de la mère, de celle qui donne la vie, c'est ça que vous retenez.
Oui, enfin c'était que mon fils donne la vie, quoi. La transmission de la vie.
On demande à chaque femme un objet qui leur évoque les femmes puissantes. Quel objet vous avez?
Ben moi j'ai mis ça. Là, il y a des colliers sur cette table. En voilà un. C'est un homme qui m'a donné tous ces colliers, qui m'a mis d'abord autour du cou et puis que j'ai remporté de manière pieuse de l'endroit où ils ont été donnés. C'était dans une île en face de Tahiti. J'ai eu la chance d'aller à l'autre bout du monde et de rencontrer des chefs de clan. Et des chefs de clan à Tahiti ont des puissances qu'ils essayent d'exalter au cours de cérémonies où on boit quelque chose qui soi-disant est censé vous donner de la puissance, en tout cas de la puissance intérieure. Oui, ça ralentit cette espèce d'impatience que nous occidentaux on a sans arrêt à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on est là en train de se dire bon bah là on n'est pas en train de parler toutes les deux. Non, je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais faire dans 1h30 et vous êtes en train de vous dire et qu'est-ce que je fais déjà dans 2h30 etc.
Donc ça ralentit les choses.
Ça ralentit les choses, voilà.
Et c'est ça.
Moi
la,
je
la
trouve
puissance.
Que c'est ça la puissance. Oui.
C'est ralentir le temps.
Et vivre.
Et être dans le moment.
Voilà. Et vivre, essayer de vivre intensément ce que ça veut dire être dans le présent.
Vous y arrivez?
Non.
Donc c'est raté malgré tous vos colliers en coquillage de Tahiti, c'est foutu.
Ben oui, mais il faut être un peu superstitieuse, qu'est-ce que vous voulez.
Ouais. Christiane Taubira, l'une des intervenantes dans cette série, dit que le vrai poème...
Alors elle est vraiment puissante.
Ah oui, vous trouvez?
Ah ouais.
Pourquoi elle plus que...
Eh ben écoutez, je sais pas, voilà. C'est peut-être ça la définition de la puissance. Elle a quelque chose de magique, parce qu'en elle, il y a de l'énergie, à la fois psychique, intérieure... Et une espèce de puissance de penser le présent qui est absolument extraordinaire. Je l'adore, je l'admire, elle le sait. Mais il m'est arrivé une histoire incroyable il y a quelques mois. Elle a accepté de venir parler avec moi dans une université à Lyon. Mmh. Le rendez-vous, c'était à 20h. Mmh. On est partis toutes les deux, comme deux petites dames, vers l'université. Il y avait là tellement de jeunes qu'ils ont été obligés de dédoubler avec des écrans la rencontre. Elle était une rock star. Mais franchement, les services d'ordre ont été obligés de la protéger tellement elle est idolâtrée. Elle nous surélève. Je sais pas comment, elle nous donne de l'énergie à chacune et à chacun d'entre nous.
Écoutez.
La puissance d'une femme, je ne sais pas, c'est sa personne, sa personnalité, son rapport à la peur. Quand elle a réussi à évacuer totalement, absolument la peur. Je crois que de toutes les émotions, de tous les sentiments, la peur est vraiment le seul qui soit capable de paralyser. Donc de neutraliser vos capacités, vos potentialités, votre réactivité, de vous empêcher, de vous interdire.
La peur, le principal
poison. Oui, elle a raison.
Pour les femmes notamment.
Elle a raison, la peur c'est ce qui peut le plus arrêter les choses et les endommager quelquefois à tout jamais. Mmh. Et les hommes le savent.
Et vous avez peur vous?
Non, pas beaucoup. Je fais partie des gens qui ont eu beaucoup de chance et qui n'ont pas eu tellement à affronter la peur. Des peurs, oui, quand j'étais très jeune, oui, j'ai eu des peurs qui ont peut-être été constituantes de ma propre personnalité, de mon propre rapport au monde. Par exemple, à un moment, j'ai été séparée de mes parents en l'espace d'un quart d'heure. Il a fallu quitter un pays d'Afrique extrêmement rapidement. Et avec ma petite sœur, on a été avalés dans un avion. La police est venue chez mes parents et puis nous a amenés sur le tarmac de l'aéroport. On savait pas où on allait. Là, effectivement, il y a quelque chose qui, tout d'un coup, voile le rapport au monde. Et puis, si. Bah, il suffit que vous prononciez le mot, vous voyez, si. Hélas, j'ai beaucoup. Je vous dis volontairement que je fais partie des gens qui ont eu de la chance. Mais il suffit que vous prononciez ce mot. Oui, j'ai eu, hélas, beaucoup de peur.
Diriez-vous que c'était excitant de diriger des hommes?
Pas du tout. C'était horrible.
Pourquoi?
Mais horrible.
Mais pourquoi?
Parce qu'ils vous prennent pour un tronc avec des seins et un cul.
C'est pas caricatural.
Et pas de tête.
C'est pas caricatural, ça?
En tout cas, moi, c'est ce qui m'a
effrayé. France Culture, ceux qui étaient en dessous de vous, ceux que vous dirigez quand vous étiez patronne de France Culture,
non,
vous preniez pour...
Non, je parle de mes ennemis, je parle pas des personnes avec qui j'ai travaillé, aussi bien des hommes que des femmes. Mais je parle de la vision qui m'a été renvoyée pendant 7 ans et demi, au cours desquels j'ai eu la chance et l'honneur de diriger cette chaîne.
Et donc c'était
tous
une vision de...
C'était mes seins, mes fesses, ma bouche, et c'était tout. C'est-à-dire c'était des caricatures obscènes qui étaient distribuées par piles à l'intérieur de la maison de la radio, devant la cantine, devant les ascenseurs... Et aussi sur tous les pare-brises des voitures aux alentours de la maison de la radio. Ça a été 3 prises d'otages, ça a été des menaces, ça a été d'une violence extrême, y compris physique.
Donc diriger des hommes, non?
Plus jamais. Diriger, plus jamais.
Ça vous a quoi? Ça vous a vacciné?
Non, ça m'a pas vacciné. Ça m'a permis de réfléchir. J'ai fait des erreurs aussi. C'est comme ça que j'ai bougé, j'ai évolué. Par exemple, des erreurs évidentes, parce que j'étais bête, je suis toujours un peu bête, parce que je suis sincère et je suis pas tellement compliquée. Alors les gens pensent toujours que les gens qui ont du pouvoir sont très compliqués et qu'il faut toujours faire du billard à 3 bandes, voire à 14 bandes, pour pouvoir décrypter leur comportement, leurs décisions. Mais une chose très simple, par exemple... Quand on est une femme et qu'on a à diriger, ça veut dire beaucoup de boulot, généralement plus que ce que les hommes en font. Parce qu'on se sent toujours coupable de pas assez bien faire, de pas assez faire et pas bien. Donc on travaille plus objectivement que les hommes et en plus on le fait, on croit le faire en transparence. Mais comme j'avais tellement de boulot, quand je suis arrivée, j'ai fermé ma porte de mon bureau. Parce que je faisais des réunions, que j'avais pas envie que tout le monde comprenne ou entende ce qu'on était en train de faire, etc. Alors là, je vous dis pas les fantasmes. Qu'est-ce qu'elle faisait derrière son bureau fermé? Cette porte fermée alimentait des fantasmes les plus fous.
Des fantasmes quoi?
Tout.
Sexuels.
De tout. Fomenter des complots. Qu'est-ce qu'elle fait? Je m'étais acheté un divan chez Ikea. Alors là, je vous dis pas, le divan chez Ikea, quoi, il devait servir. Et donc, à partir du moment où la porte a été ouverte.
Vous avez ouvert la porte.
J'ai ouvert la porte. Mais ça a été beaucoup mieux. Mais je dis que ça, c'est une erreur. Parce que ça a alimenté inutilement des fantasmes. Donc, il faut savoir. Quand on est une femme qui dirige, c'est un des enseignements nombreux que j'ai tiré de mon expérience. Il faut essayer de donner des gages à la transparence maximale. Ne pas faire croire qu'on fait des choses alors qu'on fait des choses auxquelles les autres s'attendent. Parce qu'il y a toujours un niveau de fantasme et de sédimentation, de quand représentation.
Quand c'est une femme.
Uniquement quand c'est une femme.
D'accord. Et donc il faut pas lutter contre, faut donner à...
Aujourd'hui, je crois qu'on en est encore au stade, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Parce que je crois qu'on est plus forte quand on dirige que quand on est un homme.
Vous pensez que les femmes au pouvoir sont meilleures, sont plus fortes?
Non, je pense qu'elles ont des facultés, elles ont des dispositions, elles ont une empathie, elles ont une manière de voir le monde qui est sûrement moins dans les vanités du pouvoir, moins dans les hochets sexuels que peut procurer le pouvoir, qui leur donne un avantage, comme on dit au tennis. Because
No fue con la trenza para montar, bájale. El año leopardo para matar, bájale. Que madre mía, Rosalía, bájale. Tacones lunares para matar, bájale. No fue con la trenza para matar, bájale. El año leopardo para matar, bájale.
Rosalia, Aoté Couturé, et on retourne tout de suite dans le 14e arrondissement de Paris en compagnie de Laura Adler, chez elle.
Femme puissante sur France Inter.
Laura Adler, elle, c'était une femme puissante.
François Giraud, est-ce que vous êtes féministe?
Ah non, pas du tout. Si c'est être féministe de penser que les femmes mises dans des bonnes conditions, dans les mêmes conditions que les hommes, sont capables d'assumer les fonctions les plus importantes. Et je dirais que je souhaiterais beaucoup que les femmes assument des fonctions importantes en politique, parce qu'elles sont beaucoup moins, pour toutes sortes de raisons peut-être biologiques, dévorées que les hommes par la volonté de puissance. Et que pour cette raison, elles seraient probablement beaucoup plus sages dans le gouvernement des affaires politiques.
Bah, je souscris complètement aux propos de Françoise Giroud.
Elle dit qu'elles sont moins dévorées que les hommes par la volonté de puissance. Ça, ouais. Vous êtes d'accord?
Ah, mais complètement. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, eh bien, les hommes sont toujours en politique parce qu'ils pensent que ça peut leur apporter une surcharge érotico-maniaque. Et je crois qu'ils se trompent. Mais en tout
cas, c'est ça le moteur, vous diriez, le moteur des hommes politiques, c'est...
Je pense que dans un recoin de leur conscient, de leur semi-conscient ou de leur inconscient, ça continue à exister dans le regard des autres sur eux, dans c'est le regard des femmes ou des hommes sur eux.
Ils deviennent plus érotiques.
Oui,
à leurs yeux.
Oui. Et exercer le pouvoir vous procure quelque chose de l'ordre d'un attribut sexuel supplémentaire.
Ouais, mais ça marche pour les femmes aussi.
Ben écoutez, moi je crois que c'est exactement le contraire. Je pense qu'une femme, quand elle rentre en politique, obligatoirement, à l'exception de quelques vraiment très rares exemples, eh bien, elle rentre en elle toutes ses capacités érotiques, toutes ses capacités de séduction. Elle devient une sorte de soldat moine au profit de nous tous, les citoyens.
Ah, je sais pas. Je sais pas si je suis d'accord avec vous quand vous voyez Ségolène Royal. Quand
oui,
vous voyez...
justement, quand je vous parle, à quelques rares exceptions près, je pense à elle. Mais elle a quelque chose d'autre. De très séducteur naturellement. Ça fait partie de sa nature profonde depuis qu'elle est petite fille.
Elle est séductrice.
Elle, oui, mais séductrice positivement, ce qui lui donne sa force morale et puis, elle a en même temps un sens de l'autorité innée qu'elle a peut-être eu à cause de son éducation, avec
son
des parents militaires, etc.
Nous allons parler un petit peu d'hier et d'abord avec Laura Adler, qui est journaliste.
Elle est journaliste, femme de médias, passionnée des autres, des mots et des destins hors du commun.
C'est une femme qui a beaucoup fait pour la culture à la radio et à la télévision en France.
Et qui est une femme, donc qui s'est intéressée aux femmes et aux journalistes.
Vous avez 3 enfants, dont un bébé de 6 mois, je crois. Et on m'a dit qu'il y avait à l'Élysée la plus jolie crèche de Paris pour les bébés des dames qui y travaillent.
C'est vrai qu'elle est formidable.
Un de vos cauchemars récurrents, à la fin de votre émission, vous réalisez que vous avez oublié de poser la question la plus importante. importante de votre invité.
Oui, bah ça m'arrive.
Vous êtes déjà arrivé ?
Non, mais ça continue de m'arriver.
Il y a un ton, France Culture.
Il y a un son, France Culture.
Des lieux qui n'en sont pas.
Il y a un son complètement singulier. Vous savez que c'est une radio unique au monde.
Sur la question de ce que c'est que d'être une femme, pour vous, cette question, elle s'est posée comment au fur et à mesure de votre parcours ?
J'ai jamais pensé que j'étais du côté des filles.
Est-ce que moi, j'ai oublié une question, du coup ?
Bah, j'en sais rien. Bah, vous avez des beaux yeux.
Vous, pendant les portraits qu'on a pu lire de vous quand vous étiez patronne de France Culture, il disait « elle est autoritaire, Laura Adler ». Elle est autoritaire.
J'ai pas été assez. Vous
elle est cassante. Est-ce que ça vous avait blessée à l'époque ?
Mais énormément. Surtout que moi, j'ai commencé à travailler à la radio complètement par hasard, par une amie qui est toujours une amie de lycée, et que je suis rentrée au plus petit échelon.
Ouais.
Comme secrétaire, donc j'ai franchi les niveaux petit à petit. Et donc quand je me suis retrouvée catapultée, si j'ose dire, à un poste de pouvoir et de puissance, eh bien les amis IES et les amis que j'avais depuis 35 ans déjà à l'époque, eh ben ils me disaient plus bonjour parce que j'étais la patronne. C'était coupé, c'était rompu, c'était fini. Et une de mes plus grandes joies quand j'ai quitté mon poste de directrice, c'est que pour redevenir à la grande colère du PDG de l'époque qui me disait « Mais enfin Laure, on quitte pas un poste de direction pour revenir quelqu'un de lambda, vous allez vous retrouver dans la colonne moins de tous les journaux », ce qui était vrai. Je me suis retrouvée dans la colonne moins. Et personne ne va vous croire quand vous direz que c'est vous qui avez voulu quitter ce poste de pouvoir. Je dis « Mais écoutez, c'est ma décision, tant pis ». Mais il m'a dit, mais ça va être terrible pour vous. Personne va vous dire bonjour. Mais ça n'a pas été vrai, parce que quand je suis retrouvée...
Quand vous êtes redescendue.
Quand je suis redescendue au fond du trou et que je fais le métier que j'ai eu la chance de faire, eh ben, celles et ceux que je connaissais, qui étaient mes amis depuis 35 ans...
Vous ont redit bonjour.
Mais non seulement ils m'ont dit bonjour, mais ils m'ont proposé d'aller prendre un café, ils m'ont embrassé sur les deux joues et c'était revenu.
Ouais, mais ça n'empêche que vous.
Non, mais c'est dingue.
Mais ça n'empêche que vous avez pu être autoritaire ou impitoyable. Moi, j'entends encore dans les couloirs de la radio des gens qui ont travaillé avec vous à France Culture et qui tremblaient quand Laura Adler entrait dans une pièce parce qu'ils disaient ils sont impitoyable.
Moi, je pense à quelqu'un avec qui vous travaillez. Quand
bah
même,
oui, moi aussi, je pense à quelqu'un avec qui je travaille.
Il a bien commencé
avec
moi.
On dira pas son nom.
Moi, je veux bien être Cruella, hein.
Et qui vous aime beaucoup, mais qui dit que vous êtes impitoyable.
Eh ben, impitoyable, oui, je l'étais avec lui, je m'en félicite. Vous savez comment, ce qu'il a fait avec moi quand je suis arrivée comme directrice? Il m'a enfermée à double tour, voire à triple tour, dans mon bureau. Dans mon bureau. Justement, c'était le moment de la porte fermée.
Vous lui avez bien...
Après, il m'a enseigné beaucoup de choses.
Vous lui avez bien rendu. Nicolas, si tu nous entends.
Cruella, j'assume.
Cruella, vous assumez. Il y a quelques années, vous déclariez « La féminité aujourd'hui, c'est Angela Merkel ».
Alors là, j'avoue que...
Est-ce que vous allez m'expliquer en quoi la féminité aujourd'hui, c'est Angela Merkel ?
Parce que vous pensez que la féminité, c'est l'extérieur, c'est l'apparence, c'est être bien maquillée, être si belle, être à la fois belle et intelligente. Ou est-ce que la féminité, c'est la rectitude, faire corps avec soi-même, continuer à avoir des positions morales et politiques sans jamais faillir à ses idéaux ? Pour moi, c'est ça, la féminité.
La féminité, c'est l'intelligence. C'est la droiture, c'est pas la beauté.
Non.
La beauté, ça aide quand même dans la vie, non ?
Ben, j'en suis pas sûre. Je pense que ça dessert. Il y a des personnes qui sont très, très belles et qui en souffrent beaucoup parce qu'on les prend pour des connes.
Vous avez profité de votre beauté.
Ah ben, je me considère pas belle. Vous voulez voir mes oreilles ? Vous savez comment on m'appelait depuis mon enfance, Boeing 747.
Ouais, je vois pas du tout un problème.
Bah,
un problème d'oreille, vous me faites penser aux mannequins à qui on demande leurs défauts, qui disent j'aime pas mes mains.
Ah non, mais moi je peux continuer. Je peux continuer. Là, j'ai une cicatrice au milieu du nez.
Alors Adler, on peut voir tous les défauts si vous voulez. Vous avez toujours été considérée comme une belle femme.
Non, vous l'êtes toujours. Mais la beauté, vous
savez. Faites pas semblant de faire la fausse modeste.
Non, mais je vais pas faire semblant. Je vais vous raconter quelque chose qui arrive, je pense, à beaucoup de jeunes filles et qui continue jusqu'à, je pense, la fin de la vie, parce que j'ai un âge certain et un certain âge. C'est-à-dire que la perception de la beauté, c'est pas dans le regard des autres. C'est quand on se construit soi-même au début de l'adolescence. Et il suffit qu'il y ait eu un mot blessant d'une de vos amies, soi-disant... Ben là, ça vous reste toute votre vie. Et vous avez ça?
Vous avez eu à 13 ans, 14 ans?
Voilà, ouais, ça a été terminé.
Une petite fille qui vous a dit que vous étiez moche?
Oui, plus que ça. Donc ça a été terminé.
Mais on les surmonte après, non?
Ah, je crois qu'on les surmonte jamais, même quand on fait, comme moi, beaucoup d'années d'analyse.
Est-ce que vous êtes une séductrice?
Je crois pas.
Vous cassez tous les mythes autour de vous.
Mon Dieu. Non, mais ça veut dire quoi, séductrice?
Enfin, vous plaisiez aux hommes, vous en avez usé, vous en êtes amusé,
non,
vous en
bah
avez joué.
Hélas, j'en ai pas assez usé, pas assez abusé. Hélas, je le regrette beaucoup aujourd'hui. Comme je regrette beaucoup de pas avoir connu l'amour homosexuel.
Ah ouais?
Ah ouais.
Et pourquoi vous le regrettez?
Ben parce que je pense que j'ai des amis, j'ai été draguée beaucoup par des filles, je comprenais pas pourquoi. Quand j'étais jeune, ça me faisait horreur, mais parce que j'avais peur. C'est des peurs primordiales, là, des peurs primordiales, mais qui sont transmises par l'éducation assez rigide et catholique que j'ai eue. Donc je me suis pas approchée de ce territoire. Et puis on n'en parlait pas. Et quand on en parlait à mots couverts, y compris avec sa meilleure amie, c'était pour dire « Oh, jamais, jamais, loin de moi cette idée-là ».
Et plus tard?
Ben, et plus tard, l'idée de l'homosexualité est arrivée dans nos vies, a été considérée comme quelque chose de normal, et pour moi ça a été une révolution mentale et psychique, et je pense que j'ai raté quelque chose.
Vous pouvez vous rattraper, hein.
Ah ben, je crois que c'est trop tard, hélas.
C'est foutu.
C'est foutu.
Je vous imaginez pas ne pas aimer Bowie.
J'ai vécu avec lui, si j'ose dire. J'ai dormi avec lui, j'ai dansé avec lui, j'ai aimé avec lui. Je me suis séparée de garçon avec lui. Il est rentré dans ma vie, je crois que je devais avoir 17, 18 ans. Et peut-être là, on revient à ce mot de puissance érotique. Des gens comme David Bowie nous donnaient à nous les filles. À l'époque, on avait des mini-jupes, on n'avait pas de soutien-gorge, on dansait toute la nuit, on prenait ce qu'il fallait pour pouvoir aller jusqu'au bout de la nuit sans être fatigué, etc. Mais la musique, le son de la musique, le son des gens comme David Bowie a été vraiment quelque chose qui rentrait dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos âmes, pour nous donner une puissance d'oublier justement qui nous étions, cette espèce de part de féminité qui nous entravait un peu.
On vous a demandé de choisir une chanson qui représente les femmes, vous avez pris quoi?
J'ai beaucoup hésité, mais je pense que je vais prendre une chanson de quelqu'un avec qui je vieillis, qui est un tout petit peu plus vieille que moi, que j'adore pour plein de raisons, et cette chanson est bouleversante. Elle s'intitule « À la grâce de toi », elle est signée Jane B.
C'est une femme puissante, Jane Birkin?
Ah non. Elle a jamais voulu être puissante. Elle savait pas qu'elle était belle. On lui a répété des milliards de fois qu'elle était belle. C'est une fille merveilleuse qui n'a jamais été brisée ni salie par toutes les adversités de la vie. Et Dieu sait qu'elle en a enduré et qui continue à croire au lendemain qui chante.
Pourquoi la grâce de toi me frappe en sommeil ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme en ralenti et les rires ont un écho des plages de l'oubli. Pourquoi mes mains tremblent pour caresser une fois encore et comprendre la beauté de cette complexité du corps? Trop faible pour nager au contre-courant, la vie envoie des vagues imprévu de mélancolie. Bafoué, ballotté, te voilà blotti comme les marins qui repère dans une tempête d'abri. Je bénis les dieux en qui je ne croyais plus de m'avoir donné un enfant à garder une nuit. Pourquoi la grâce de toi me frappe en sommeil ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme on ralentit, et les rires ont un écho d'une plage de l'oubli. Pourquoi mes mains tremblent pour caresser une fois encore et comprendre la beauté de cette complexité du corps?
À la grâce de toi, c'était le choix musical de Laure Adler.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Au moment de MeToo et de Balance ton porc, vous avez signé un texte pour expliquer pourquoi vous n'aviez pas signé justement la tribune sur la liberté d'importuner des 100 femmes, dont Catherine Millet, dont Catherine Deneuve. Catherine Deneuve que vous avez reçue à l'heure bleue pour parler de ça.
Vous avez signé une pétition.
Oui.
Qui vous a valu pas mal de commentaires.
Oui, très négatifs. Ce que je peux comprendre.
Oui, mais...
Mais il a fallu cette
j'aimerais
pétition...
J'aimerais bien vous expliquer sur cette signature.
Bah, je me suis expliquée,
hein, parce
que j'ai
répondu. Cette signature n'est pas forcément acquiescement total.
Voilà, c'est ça le truc.
Et je
voilà.
vous ai toujours connue comme une militante
oui, mais...
pour les droits des femmes. Alors...
Oui, mais alors je vais vous dire. Ce qui se passe, c'est que cette pétition est arrivée très tard chez moi. Il fallait répondre dans la journée. C'était vraiment ultra rapide et ultra pressé. Donc j'étais d'accord avec l'ensemble des choses, mais il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans la pétition. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Mais je trouvais que la plupart des choses qui étaient importantes à mes yeux étaient là, donc j'ai dit je la signe quand même parce que ça me semble... Et je ne dis pas ça pour me dédouaner après coup parce qu'il y a eu des commentaires négatifs, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui me plaisaient moins. C'est pour ça que j'ai fait une réponse dans Libération, pour dire voilà ce que j'en pensais par rapport à cette pétition et ce que je pensais, mais sur le fond, je n'ai pas changé d'avis hein, quand même.
Les questions que ça soulevait, le retour du puritanisme, une éventuelle guerre des sexes, etc. Est-ce que vous, c'est des questions qui vous travaillent, qui vous interrogent?
Ben, je pense qu'on n'est pas en guerre. Je pense que les hommes sont pas des porcs. Je pense que Balance ton porc, c'est un très mauvais intitulé pour pouvoir défendre une très belle cause. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes féministes, qu'on n'est pas en guerre et que pour pouvoir continuer à combattre, parce que hélas, on voit bien que il y a une possibilité d'entaille de nos droits les plus fondamentaux.
Aujourd'hui, hein. Vous êtes inquiète. Vous avez l'impression qu'il y a une régression, qu'il y a une musique qui s'installe, qui remet en cause l'avortement aux États-Unis.
Voilà, je pense que nous sommes dans une montée des autoritarismes soi-disant soft. On n'ose plus utiliser des mots comme des dictatures douces, etc. Mais en tout cas, on est dans une ère civilisationnelle où petit à petit, il y a une montée d'autoritarisme avec des leaders qui s'installent et qui disent des choses extrêmement violentes sur la nature des femmes et que nos droits, effectivement, peuvent être remis en cause. Et hélas, je constate, en tant qu'historienne, que l'histoire des femmes n'est jamais une histoire continue de droits qui se sédimentent et qui sont acquis à tout jamais.
Vous regrettez que les femmes de ma génération aient du mal à se dire féministes?
Non, je le regrette pas du tout, je le comprends.
Vos filles, elles sont féministes? Elles
non, enfin...
Elles se disent féministes?
Non.
Du coup, êtes... est-ce que moi ou vos filles, on a oublié un peu vite que ces droits-là que vous aviez acquis peuvent être mis en cause comme ça?
Ben oui, mais je suis sûre que si jamais il se passe quelque chose de grave pour nous, les filles, eh ben vous serez au premier rang. Et vous descendrez dans la rue comme l'ont fait toutes les femmes depuis l'aube de la Révolution en 1789.
Mais vous, vous êtes féministe.
Ah oui, même si ça paraît super ringard, mais le jour où pour la première fois je suis arrivée dans une réunion de filles où il y avait que des filles et on a pu parler entre filles de ce qui nous préoccupait, ben j'étais autrement, j'avais découvert quelque chose d'insoupçonné à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que le féminisme est arrivé dans ma vie. Donc c'est quelque chose qui m'a transformée, mais qui me transforme encore et qui m'enrichit.
Être une femme, ça a été un atout pour faire une carrière dans le journalisme ?
Ah, c'est évident que oui. C'est uniquement parce que j'étais une femme et pour être l'alibi. Si j'ai été choisie comme directrice de France Culture, c'est parce que j'étais une femme. Et quand le PDG qui venait d'être nommé m'a proposé d'être directrice... et qui m'a invité à déjeuner, il paraît que je me suis mise à pleurer, je m'en suis même pas rendu compte, et il m'a dit, mais pourquoi vous pleurez? Je lui ai dit, bah, parce que je croyais que le directeur de France Culture, ça devait être mon mec. Mon mec avait été appelé par le CSA pour être directeur de France Culture, 2 jours avant.
Ah oui.
Et il m'a répondu, ce PDG, une phrase que je n'oublierai jamais, il m'a répondu, à ce que je sache, votre mari n'est pas une femme. Ça voulait dire beaucoup de choses.
Ah bah oui. Et ça n'a pas été un problème avec votre mari? Que vous soyez choisie et pas lui?
Si, parce que quand je suis rentrée à la maison le soir, on en a discuté toute la nuit. Il était, disons, pas malheureux parce qu'il n'avait pas souhaité non plus être directeur, mais c'était légitime qu'il le devienne à l'intérieur, entre guillemets, d'une carrière qu'il avait commencée depuis longtemps. Moi, j'étais totalement illégitime. Je n'avais pas passé les diplômes, les machins, les trucs, etc.
Il
n'y
a pas de diplôme pour être patron?
Si, à l'époque, il y avait des examens internes très compliqués, etc., etc. Bon. Et à la fin de la nuit, il m'a dit, écoute, toutes les façons, je serai pas directeur de cette chaîne que j'aime tant, donc je préfère que ça soit toi plutôt que quelqu'un d'autre, à une seule condition, c'est qu'on parle jamais radio entre nous. Et on a tenu bon.
Vous avez tenu bon pendant 7 ans.
Et demi.
Vous n'avez pas parlé de radio.
Je comptais
des mois. C'est vrai. Et quand François Mitterrand vous propose d'être conseillère culturelle à l'Élysée, il vous prend parce que vous êtes une femme ?
Oh, j'en sais rien, il y a toujours eu, à part Éric Orsenna, qui a un côté féminin quand même assez prononcé, ben, il aimait bien les conseillères femmes pour la culture. Vous savez, culture et femme, ça faisait soi-disant un couple inséparable.
Donc ça vous a aidé aussi ?
Oui, je pense.
Comment ils l'ont vécu, les historiques, de vous voir débarquer dans le cercle de Mitterrand ?
Ben, écoutez, c'est un moment de ma vie où j'ai rarement senti autant de solidarité entre les personnes. Pour moi, ça reste un des moments les plus heureux de ma vie professionnelle. C'est là où je me suis forgé des amitiés qui existent encore aujourd'hui, des modes d'appartenance, un type de langage, un type de raisonnement.
Pourtant, vous racontez que vous aviez souffert, que vous aviez toujours le même cauchemar, que
oui,
la voiture présidentielle vous écrasait.
Oui, parce que je me sentais illégitime et j'ai eu des moments très compliqués. On a essayé de me corrompre de l'extérieur. Mais à l'intérieur de l'Élysée, j'ai été extrêmement bien accueillie comme une pauvre cultureuse qui connaissait pas les codes et à qui fallait apprendre tout très vite. Ça a été le temps du débrief. Ça a duré 2 mois et demi, 3 mois. Et puis après, j'ai été adoptée, mais vraiment adoptée. Je pense que je fais toujours partie de la famille, en tout cas, je l'espère.
De la Mitterrandie ?
Pas de la Mitterrandie, des personnes qui ont travaillé avec et pour Mitterrand.
Il vous a appris quoi, Mitterrand, si vous deviez résumer en 2-3 phrases ?
Ben, que le pouvoir, ça n'existe pas.
Lui, Mitterrand, vous a appris
oui,
ça ?
Oui, il me l'a répété à de nombreuses reprises. Il l'a répété collectivement, mais il me l'a dit individuellement. Je m'explique. C'est-à-dire quand on est au sommet de l'État, et Dieu sait que lui a tout fait pour être au sommet de l'État et qu'il en a beaucoup souffert et qu'il a passé sa vie à essayer d'être au sommet de l'État, on passe son temps à donner des orientations et à faire croire qu'on possède le pouvoir, mais que la véritable puissance du faire, c'était quelque chose dont, en tant que président de la République, c'était très rare de pouvoir jouir de ce pouvoir, parce qu'il n'y a pouvoir que dans pouvoir de faire.
Et l'homme, il vous a appris quoi sur l'homme ?
Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, notamment que la vie valait toujours la peine d'être vécue, que même quand on souffrait beaucoup, fallait continuer à lire, que chaque chose apportait son lot de découvertes, à la fois savoir marcher dans une rue, savoir regarder un arbre, savoir lire des textes anciens, notamment religieux, etc., qu'on pouvait toujours réfléchir, et que la vie était faite de rencontres dans l'instantanéité du présent, à condition de savoir vivre cette instantanéité du présent. Je crois que la chose qui m'a apprise la plus importante, et vous n'allez pas me croire, mais c'est pas grave, je sais que c'est vrai, mais c'est que Mitterrand considérait, moi je l'ai connu à la fin de sa vie, quand il était président de la République, mais j'ai vu, de mes yeux vus, à de très nombreuses reprises, considérer chaque être humain à égalité. Et ça, moi, c'est une grande leçon.
Pourquoi vous n'avez pas été ministre de la Culture ?
Parce qu'il y avait des gens bien plus importants que moi, et puis que c'était pas quelque chose à laquelle je rêvais, je me suis pas beaucoup employée.
C'est vrai ?
Non.
En venant ici, on se mettait en tête le générique de L'Heure Bleue. Il est entêtant. Et puis avant L'Heure Bleue, il y avait Hors Champ pour France Culture, Chili González. Sont toujours très modernes et très chic.
Mais pourtant, j'ai eu beaucoup de mal. Merci beaucoup, Léa, parce qu'ils n'en voulaient pas de mon générique à France Inter. Ils trouvaient ça vraiment ringard. Je voudrais dire merci non seulement à Daft Punk, mais aussi à Mia Hansen Love, que j'adore pour de nombreuses raisons, mais aussi parce qu'elle a fait un film qui n'a pas eu du tout de succès, qui s'appelle Eden. Et bien, dans ce film de Mia Hansen Love, il y a un passage où on entend cette musique, un passage extrêmement grave et mélancolique. Et quand je suis sortie du cinéma, je me suis dit « Ah, si jamais un jour on me propose une nouvelle émission de radio, ça sera ça. »
Il y a les génériques de Laura Adler et puis à ces questions un peu bizarres, un peu surprenantes.
Comment vous appelez-vous ?
Alain Fabien Maurice Marcel Delon.
C'est le vrai nom ?
Bah oui, c'est mon vrai nom, oui.
J'adorais ce moment.
Non, mais écoutez...
Comment vous appelez-vous ?
Ben oui, oui, mais souvenez-vous que cette personne a parlé de lui pendant très longtemps en disant « il », comme s'il n'était pas lui-même. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il était super prétentieux, qu'il avait pété les plombs et tout ça. Donc je me suis dit, est-ce qu'il fait corps avec lui-même ? Ben c'est son vrai nom.
C'était un peu une psychanalyse, l'interview de Delon, non ?
Ah, mais c'est une vieille histoire avec Alain Delon. Non, pas une psychanalyste. J'aurais bien aimé être psychanalyste.
Je sais, c'est pour ça que
tiens,
je pose
la
question. Non, mais c'est vrai, vous dites souvent que la psychanalyse, c'est ce que vous auriez aimé faire.
La psychiatrie.
La psychiatrie.
C'est encore plus sérieux pour moi.
Alors,
psychiatre, psychanalyste.
Ouais. La littérature, c'est aussi une forme de psychanalyse, notamment quand vous sortez ce livre où vous racontez la mort de votre fils. C'était aussi une manière de dire les choses, non ?
Bah, c'est une histoire très étrange parce que c'est pas du tout un livre que j'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai eu un accident de voiture extrêmement grave un beau matin alors que j'allais travailler au Festival d'Avignon. Et voilà, il y a des moments où vraiment on passe très proche de la mort, on le sait. Et en même temps, 3 heures après, pris dans le tumulte des choses, on oublie. Et quand je suis rentrée très tard le soir... J'ai réalisé que le temps s'était arrêté et c'est dans la nuit que j'ai mieux compris ce qui m'était arrivé puisque comme une somnambule, je me suis réveillée et toutes les nuits je me suis réveillée jusqu'à ce que le texte soit terminé et là j'en connaissais la fin, je savais pas ce que j'écrivais, c'est voilà quelque chose s'était écrit 17 années après la disparition de mon fils. Et c'était comme si des arrière-portes de la mémoire s'étaient ouvertes avec un consentement insu de moi.
Qu'il fallait l'écrire.
Que quelque chose s'écrivait à mon insu. J'ai transporté ce texte qui était dans un cahier d'écolier pendant très très longtemps, que je n'ai jamais relu. Et puis, 9 mois après, je l'ai laissé sur le lit. Et je suis partie un soir et j'ai dit au père de mon fils et à mon amoureux de le lire. Et puis je suis revenue au matin et il m'a dit « Peut-être que c'est bien si tu le publies. » J'ai cherché quelqu'un qui pourrait le lire et quelqu'un avec qui j'avais assez de relations d'amitié, donc de confiance, donc de transparence, qui aurait pu me dire sans me blesser « C'est pas publiable. » J'ai immédiatement pensé à quelqu'un et je suis allée lui porter sans le lui dire avec un petit mot. C'est-à-dire, j'ai pas voulu affronter son regard, j'ai laissé ça à l'accueil de la maison d'édition. Et le lendemain, cette personne m'a appelée et m'a dit « J'aimerais bien le publier ». J'ai dit « Ben alors, je le relis pas, c'est toi qui t'en occupe » et je ne l'ai jamais relu.
Vous avez jamais relu ce texte? Non. Vous en seriez incapable?
J'en serais incapable encore aujourd'hui, oui.
Celui que vous appelez mon amoureux... C'est marrant d'appeler son mari, son compagnon depuis je sais pas combien d'années, mon amoureux encore.
Ben mari, ça me fait peur. Hein.
Vous êtes
la
pas
conjugalité,
vous êtes pas
ça me fait peur. Si si, on s'est mariés de très vieux, mais on s'est mariés. Mais justement, moi, j'avais pas tellement envie de me marier.
Ouais. Donc vous l'appelez mon amoureux.
Bah oui.
Et donc votre amoureux raconte à votre fille dans le documentaire qu'elle a fait votre rencontre.
Un jour, j'étais en train de travailler dans mon bureau à la radio. Je regardais des livres qui venaient de paraître et je suis tombé sur une revue qui était...
Génial.
Une revue que faisaient les éditions de Minuit qui s'appelait Minuit. Et la couverture était rouge, toute rouge, qui était inhabituelle pour cette revue. On a frappé à ma porte. Laure a passé la tête. Puis le reste du corps. Et j'ai vu que son pull vert rouge qu'elle portait ce jour-là était exactement du même rouge que la couverture de la revue. Du coup, je l'ai regardé. Alors que nous travaillions ensemble depuis quelques temps, je la connaissais depuis quelques années, je ne l'avais jamais regardé vraiment. Je l'ai regardé, j'ai eu envie de lui parler. Et le soir, je l'ai appelé au téléphone. Elle se demandait bien pourquoi je l'ai appelé au téléphone. Pas parce que c'était pas mon habitude, et je l'ai invité à dîner pour son anniversaire. Nous avons dîné, je lui ai proposé de la raccompagner chez elle en voiture, et dans la voiture, très vite, elle s'est endormie. Et quand nous sommes arrivés au pied de son immeuble, il a bien fallu que je la réveille.
C'est la belle au bois dormant, quoi.
Et pour la réveiller, je l'ai embrassée.
C'était votre mari, donc, Alain Weinstein, dans le documentaire fait par votre fille, Léa, La radio de papa. C'est joli.
Oui, il oublie quand même de dire qu'entre le coup de téléphone et le dîner... On faisait une émission ensemble en direct à la radio,
ouais.
Une émission littéraire qui s'appelait Bruit de page, mais sans ça, tout est vrai.
C'est vrai?
Oui.
Comment vous faites durer votre couple depuis si longtemps?
Ben, j'en sais rien. Lui, il a sa peinture, il est parti de la radio, il peut pas passer près de la radio tellement ça a été sa vie pendant longtemps. L'histoire d'amour avec la radio s'est terminée de manière un peu triste. Donc, faut savoir partir avant qu'on vous mette à la porte. Et maintenant, il est redevenu peintre. Donc, voilà, il vit dans son atelier.
Et vous, vous saurez partir avant que ce soit trop tard?
Ah oui.
Avant que vous mette à la porte?
Ben, j'espère. Oui. C'est déjà prévu.
Ah, vous avez prévu votre date. La vieillesse, le corps qui vieillit, vous le gérez comment?
Je suis en train de travailler depuis 3 ans et demi sur un ouvrage qui va s'intituler « Le privilège de l'âge ». Je pense que la vieillesse, justement, c'est le ralentissement. S'il n'y a pas de problèmes médicaux, et ça c'est un privilège, bah, ça peut être justement une sorte d'avancée un peu lente vers un état de plénitude. C'est pas donné à tout le monde. Ça se prépare en amont. Et si la société vous y autorise aussi.
Donc il faut préparer sa vieillesse.
Moi je trouve, ouais.
Il faut la penser.
Faut la préparer. Faut essayer de trouver des raisons de vivre qui ne vous appartiennent pas uniquement à vous-même. Faut réaliser des rêves que vous n'avez jamais pu exaucer parce que le travail vous a englouti quelquefois. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.
Et la foi? Vous êtes croyante?
Je l'ai été pendant très longtemps. J'ai des parents qui le sont et ça les aide justement à traverser cette période de grande vieillesse, de haute vieillesse dans tous les sens du terme. Moi, à partir du moment, le jour où j'ai perdu mon fils, ça a été terminé. Ça m'empêche pas de lire les Écritures saintes tous les jours.
Le jour où votre fils est mort, vous n'avez plus cru.
Oui, ça a été fini.
Et plus du tout. Oui. Sans retour.
Oui. Alors que j'ai des amis, deux amis, à qui, hélas, la même expérience est arrivée, qui m'ont dit, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai, au contraire, que je suis rentrée dans un chemin de croyance. Bah, moi, ça a été l'inverse.
Quelques questions de fin, des questions juste comme ça, vous réfléchissez pas trop, hein. Vous êtes un homme pendant 24 heures, vous faites quoi?
L'amour.
Quelle est la femme puissante qui vous a le plus bluffé?
Aung San Suu Kyi, avant.
Avant. Est-ce qu'il y a une femme puissante que vous avez rencontrée et vous vous êtes dit non, elle, c'est une imposture?
Oui, mais je peux pas le dire.
Elle est toujours vivante?
Oui.
Vous êtes... un indice. Entre Ségolène Royal et Martine Aubry, vous prenez qui?
Martine.
Pourquoi?
Parce qu'elle dit tout ce qu'elle pense.
Entre Brigitte Macron et Valérie Trierweiler, vous choisissez qui?
Je connais Valérie, je connais pas Brigitte. Je choisis Brigitte.
Avez-vous des regrets?
Beaucoup.
Vous arrive-t-il de mentir souvent?
Vraiment pas beaucoup et pas assez, hélas. J'ai le bout du nez qui commence à trembler quand je mens. Je sais pas mentir.
Merci Laura Adler. Merci de nous avoir reçus chez vous.
S'il te plaît, je voudrais aller à Bayeux. Je l'ai bien vu dans
Véronique Sanson, Bayard, à l'instant sur France Inter. Merci à Laura Adler. Cette émission a été préparée par Outiche Raniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Yves Lehor. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la réalisation, Sonia Leglen. Bel été à tous. La semaine prochaine, dans Femmes puissantes, ce sera elle.
Un rabbin, c'est juste quelqu'un que un groupe reconnaît comme pour son érudition. Et donc, dès lors, vous devenez le rabbin de quelqu'un, dans la mesure où on reconnaît que vous avez un pouvoir à guider une communauté par votre savoir.